Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Et avec ton esprit.
Prions.
Accorde,
Seigneur, à tes fidèles, cette grâce de vivre le temps du carême comme un peuple consacré, de le célébrer avec amour, de le passer tout entier dans une ferveur que rien ne puisse troubler, par Jésus-Christ, Fils notre Seigneur. Amen. Aimons-nous les uns les autres pour confesser d'un cœur unanime la foi de l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur,
qui a fait les cieux et la terre.
Prions.
Oh.
Dieu est un Père qui accueille et qui pardonne. Aujourd'hui, il nous redit ce qu'il n'a cessé de répéter depuis le jour de notre baptême. Je t'ai appelé par ton nom, depuis le commencement de ton histoire. Je t'ai formé des profondeurs de la terre et t'ai tissé dans le sein de ta mère. J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Je te garde une infinie tendresse et je prends soin de toi. J'ai mis en toi toute ma joie. Le Seigneur vous fait miséricorde. Il vous accorde le pardon de votre péché. Il vous conduit à la vie éternelle.
Amen. Amen.
Lecture du psaume 119, versets 41 à 80. Que viennent sur moi tes bontés, Seigneur, le salut conforme à tes ordres. Et j'aurai une parole pour qui m'insulte, car je compte sur ta parole. N'ôte pas de ma bouche toute parole de vérité, car j'espère en tes décisions. Je garderai sans cesse ta loi et à tout jamais. Je marcherai à l'aise, car je recherche tes préceptes. Devant des rois, je parlerai de tes exigences et je n'aurai pas honte. Je me délecte de tes commandements que j'aime tant. Je lève les mains vers tes commandements que j'aime tant et je méditerai tes décrets. Rappelle-toi la parole dite à ton serviteur, en laquelle tu me fis espérer. C'est ma consolation dans la misère, car tes ordres m'ont fait revivre. Les orgueilleux se sont bien moqués de moi, mais je n'ai pas dévié de ta loi. Je me rappelle tes décisions de toujours, Seigneur. Elles sont ma consolation. La rage m'a saisi devant les infidèles qui abandonnent ta loi. Tes décrets sont devenus mes cantiques dans la maison où je ne fais que passer. La nuit, je me rappelle ton nom, Seigneur, pour garder ta loi. Ce qui m'appartient, c'est d'observer tes préceptes. Ma part, Seigneur, ai-je dit, c'est de garder tes paroles. J'ai mis tout mon cœur à détendre ton visage. Fais-moi grâce, selon tes ordres. J'ai réfléchi à ma conduite, et je ramène mes pas vers tes exigences. Sans perdre un instant, je me suis hâté de garder tes commandements. Les cordes des infidèles m'ont ligoté. Ta loi, je ne l'ai pas oubliée. En pleine nuit, je me lève pour te célébrer à cause de tes justes décisions. Je m'associe à tous ceux qui te craignent et qui gardent tes préceptes. De ta fidélité, Seigneur, la terre est comblée. Enseigne-moi tes décrets. Tu as fait le bonheur de ton serviteur, selon ta parole, Seigneur. Enseigne-moi les bienfaits du jugement et de la science, car je me fie à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. À présent, je garde tes ordres. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes décrets. Des orgueilleux m'ont sali de leurs mensonges. Moi, de tout cœur, j'observe tes préceptes. Leur cœur s'est figé comme de la graisse. Moi, je me délecte de ta loi. Il me fut bon d'être humilié pour étudier tes décrets. La loi, sortie de ta bouche, vaut mieux pour moi que des millions d'or et d'argent. Tes mains m'ont fait et affermi. Rends-moi intelligent et j'étudierai tes commandements. En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent, car j'espère en ta parole. Je reconnais, Seigneur, que tes décisions sont justes et que tu avais raison de m'humilier. Que ta fidélité me console, comme tu l'as ordonné pour ton serviteur. Que ta miséricorde me pénètre et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte aux orgueilleux qui m'ont accablé de mensonges. Moi, je médite tes préceptes. Que reviennent à moi ceux qui te craignent. Ils connaîtront tes exigences. Que je suive parfaitement tes décrets pour ne pas éprouver la honte. Gloire à toi, Seigneur. Alors on vous l'a dit, ce psaume 119 est en fait, la traduction ne le montre pas, un psaume alphabétique. Comme je suis le deuxième à passer sur ce psaume, ça a dû vous être dit avant, mais c'était déjà il y a quelque temps, donc vous avez le droit d'avoir oublié. C'est donc un psaume alphabétique, comme le psaume 111, que nous avons écouté ensemble le mois dernier, juste avant. C'était pas... Il y a eu une numérotation un peu plus compliquée. Bref. Le psaume 111, lui, n'avait que 10 versets. Un verset pouvant contenir plusieurs parties, commençant chacune par une lettre différente. Avec le psaume 119, chacune des 22 lettres de l'alphabet hébreu débute 8 versets successifs, et cela pour chacune des 22 strophes. Cela donne au psaume donc une toute autre longueur que le psaume 111. Comme vous le savez, comme cela vous a été dit sans doute déjà, avec 176 versets, c'est le plus long des psaumes et en même temps le plus long chapitre de la Bible. D'où votre choix très judicieux d'en répartir la lecture sur plusieurs jeudis. Au-delà de sa longueur, ce psaume a aussi pour caractéristique d'avoir joué un rôle essentiel dans l'organisation de la vie monastique. Lorsque saint Benoît rédigea sa règle et sa liturgie des heures, il trouva dans ce psaume l'origine de son organisation avec 7 offices par jour, parce que le psalmiste dit qu'il doit louer le Seigneur 7 fois par jour. Et en particulier, il a trouvé la raison pour décider que le premier office de la journée doit se commencer au milieu de la nuit. Saint Benoît justifia cette tradition avec le verset 62 que nous venons d'entendre. « En pleine nuit, je me lève pour te célébrer à cause de tes justes décisions. » C'est pourquoi l'office de matine ou de vigile est célébré toujours avant l'aube. Et beaucoup d'abbayes conservent encore cette ancienne tradition avec l'office de vigile au milieu de la nuit, d'après ce psaume et en particulier d'après le verset 62 de ce psaume. Et il faut reconnaître, ce n'est pas si facile à appliquer cette règle de se lever si tôt, comme vous le savez, l'a expérimenté le célèbre frère Jacques, qui visiblement, et comme beaucoup le savent, préférait dormir que sonner les matines. Aujourd'hui, les chronobiologistes désapprouvent ce genre de pratique, soulignant l'importance du sommeil nocturne dans la bonne santé des gens. Mais le psaume 119 n'avait pas ces préoccupations et il nous rappelle que l'on peut louer le Seigneur le jour, mais aussi la nuit. Alors, la prochaine fois que vous devrez vous lever un peu trop tôt, vous coucher un peu trop tard, souvenez-vous de ce psaume 119 et de son verset 62. La partie que nous venons de lire, les versets 41 à 80, contient plusieurs enseignements en plus de cette incitation à se lever la nuit pour louer le Seigneur. Mais la plupart des enseignements tournent autour de la nécessité de suivre la parole de Dieu. Cette fois revient dans ces 40 versets le mot parole. Mais on retrouve aussi toutes les autres formes que cette parole peut prendre quand elle vient du Seigneur. Tout au long du psaume, l'accent est mis sur l'enseignement de Dieu, sur sa parole, ses préceptes, ses commandements, ses décrets, ses exigences, ses décisions et sa loi de manière générale. Le psalmiste le redit au verset 42, il compte sur la parole de Dieu. L'enseignement de Dieu, la nécessité de suivre ses commandements est la thématique qui domine tout le psaume 119 et vous devriez encore en entendre parler lors des prochaines fois. Mais dans les versets que nous avons lus aujourd'hui, revient de manière plus marquée le thème de l'humiliation. Par exemple, les orgueilleux se sont bien moqués de moi, verset 51, verset 67, avant d'être humilié, je m'égarais, à présent je garde tes ordres. Verset 71, il me fut bon d'être humilié pour étudier tes décrets. Ou 75, je reconnais Seigneur que tes décisions sont justes et que tu avais raison de m'humilier. Et verset 80, que je suive parfaitement tes décrets pour ne pas éprouver la honte. Ce thème de l'humiliation est l'occasion d'aborder une question qui traverse en fait tout le livre des psaumes, celle de la dimension individuelle ou collective des propos du psalmiste. Quelle est la source de cette humiliation et qui est humilié quand le psalmiste parle de cette humiliation? Lorsque l'auteur d'un psaume se plaint de son sort et demande à Dieu de l'aider, s'agit-il d'une situation personnelle ou de l'évocation du destin du peuple hébreu tout entier? Parle-t-il de lui-même ou au nom du peuple d'Israël? Il n'est pas si facile pour un lecteur moderne de se plonger dans le livre des psaumes, il faut bien le reconnaître. Quand on n'a pas trop la culture du livre des psaumes, c'est difficile. Le risque pour un esprit non averti et de n'y entendre que des plaintes, des gémissements assez égocentriques qui finissent par devenir lassants. Car nous sommes dans une culture bien différente, une culture où le salut... aujourd'hui, nous considérons que le salut est forcément individuel. En tout cas, l'individu est la source, la mesure de toute chose. Et la plainte est forcément personnelle. Les choses n'en étaient pas ainsi à l'époque où les psaumes ont été écrits. À l'époque, le salut était forcément collectif. Ce qui importait pour être sauvé, c'était d'être dans le bon groupe, le bon wagon, dans le peuple aimé de Dieu, aimé surtout du Dieu le plus puissant. À une époque où les invasions étaient chose courante, où lors de la prise d'une ville, tous les habitants avaient une forte probabilité de subir tous un même sort peu enviable, le salut était logiquement compris comme quelque chose de collectif. Il n'y avait pas de possibilité de vivre indépendamment d'un groupe. Sortir d'un groupe social, c'était la mort assurée. Et c'est une perspective qu'on a du mal à comprendre dans la société d'aujourd'hui, qui est organisée de manière très différente. Et les psaumes en portent la trace, souvent de façon explicite. L'humiliation dont parle le psaume est moins celle d'un individu unique que celle d'un peuple tout entier qui a dû connaître la destruction de Jérusalem, l'exil et la soumission aux empires voisins. Le christianisme a substitué à cette culture du salut collectif d'un seul groupe, l'idée d'un salut offert non plus à un groupe limité, mais à l'humanité tout entière, et appelant pour cela à une décision de conversion individuelle. C'est l'universalité du message des évangiles, renforcée par les lettres de Paul, qui a conduit à cette nécessité d'une conversion personnelle, car l'universalité s'oppose au collectif. Au sein d'un collectif, il n'y a rien à faire, il suffit de suivre le collectif et de bénéficier des avantages du collectif. Mais quand le salut est proposé de manière universelle, nous ne sommes plus protégés par un groupe et nous sommes obligés de prendre nous-mêmes, chacun, la décision de faire confiance ou pas. Le message des évangiles, c'est l'appel à une conversion personnelle, une décision individuelle de confiance en la parole qui nous est donnée. Pas de ticket de groupe, juste un enjeu personnel de confiance en la parole reçue. Un salut universel impose le choix individuel à la place du salut collectif qui est forcément réservé à un groupe, un peuple ou à une secte d'ailleurs, où il suffisait alors de faire partie de ce groupe. Même si les psaumes peuvent permettre une interprétation collective de leur message appliqué au peuple d'Israël, ils permettent aussi une interprétation individuelle. Et les premiers chrétiens y ont surtout trouvé une expression individuelle à travers la préfiguration de la vie du Christ. Jésus a prié les psaumes et ses premiers disciples les ont relus au prisme de sa vie. Aucun texte de l'Ancien Testament n'est plus cité que les psaumes dans les évangiles. Et ce psaume 119, qui insiste tant sur la nécessité d'écouter ce que Dieu veut nous transmettre, est bien placé dans cette démarche qui a reconnu en Jésus-Christ justement la parole de Dieu, celle que nous devons écouter, chacun d'entre nous, avec reconnaissance, à la fois jour et nuit. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon, Père du ciel et de la terre, de célébrer ta louange pour la richesse de bénédiction que tu déploies parmi nous en Jésus, ton Fils. Voici qu'il a pris résolument la route de Jérusalem et nous invite à le suivre dans cette montée vers l'offrande, dans ce passage vers la vie. Désormais, nos souffrances même et nos échecs et nos angoisses ne sont plus l'impasse dans nos ténèbres, mais le chemin où Jésus nous rejoint pour nous conduire vers la lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons à ta gloire. Le Seigneur, la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Voici ton Christ qui s'offre et qui en meurt, qui affronte notre vie, notre mort, en face et jusqu'au bout, qui traverse la vie humaine et l'amène à sa fin, jusque dans la victoire secrète de la résurrection, par sa fidélité à toi, Père, comme à nous-mêmes, ses amis. Nous entrons dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection. Nous allons avec lui dans notre monde obscur et la lumière de Pâques. Père, nous voici pardonnés, nous voici recréés à l'image de ton Christ. Que renaisse en nous l'Esprit, que l'Esprit Saint nous illumine, nous donne de discerner de nos yeux par la foi le corps de Jésus, le sang de Jésus, sa personne, son existence dans le pain, dans le vin. Tu nous rassembles. Tu fais de nous ensemble le corps de ton Fils, ses membres réunis. Que vienne ton royaume, l'Église universelle, le festin de la joie, comme à tous les humains. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt.
Amen.
Comme nous l'avons appris du Seigneur, nous pouvons prier avec confiance.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Dans l'attente du jour où le Seigneur lui-même invitera sa création tout entière au repas de sa grâce, dans l'attente du jour où nos yeux le verront comme déjà il nous voit, dans l'attente de ce banquet de fête au terme de l'histoire, le Seigneur ressuscité nous invite au repas de l'espérance. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Venez, car tout est prêt. Venez, car vous êtes aimé.
Je reste à l'intérieur du deuxième rang.
Thank you. Merci Seigneur pour ce pain et pour ce vin, qui nous redisent, mieux que les mots, la force de l'amour qui nous remet debout. En ton corps déchiré sur la croix, nous mourons à nos enfermements sur nous-mêmes. En ton sang versé en alliance nouvelle, nous renaissons à l'offrande de nos vies. Avive en nous le goût de cette liberté retrouvée en laquelle tu auras garde à toi, unis à toi. Nous t'en bénissons, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles.
Amen. Amen.
Comme tu as guidé le Christ au désert, dirige-nous. Comme tu l'as gardé dans la tentation, garde-nous. Comme tu as accueilli tes disciples à la transfiguration, purifie-nous. Comme tu as donné l'eau vive à la femme altérée, vivifie-nous. Comme tu as donné la lumière aux yeux aveuglés, ouvre nos yeux. Qu'au long de ce carême, déjà nous espérions la joie pascale, le matin de Pâques, la pierre roulée, le royaume de lumière qui vient. Que le Dieu de la paix, qui a fait remonter d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il réalise en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles.
Amen. Amen.